VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 4 septembre 2018, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a été écarté définitivement de la présidentielle de décembre prochain.
Une aide au développement de 2,17 milliards de dollars a été promise aux pays du bassin du lac Tchad par les donateurs réunis à Berlin.
Au Maroc, mort de deux Maliens pendant un déplacement forcé de migrants.
En outre, plus de 600 migrants qui tentaient d'atteindre les côtes espagnoles ont été secourus hier en mer Méditerranée.
Afghanistan, les talibans ont annoncé la mort du chef du puissant réseau Haqqani.
Le président américain Donald Trump met en garde Damas, Moscou et Téhéran contre une offensive dans la province d'Idleb sous contrôle rebelle en Syrie.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'opposant Jean-Pierre Bemba a été définitivement écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre prochain. Les juges de la Cour constitutionnelle ont validé la décision de la Commission électorale nationale indépendante qui avait rejeté sa candidature suite à sa condamnation à la Cour pénale internationale pour subornation de témoins. La candidature de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito a également été invalidée. Des détails avec Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Recalée par la CENI le mois dernier, la candidature de Jean-Pierre Bemba n'a pas pu être repêchée par la Cour constitutionnelle, instance habilitée à gérer les contentieux électoraux. La Cour a, comme la Commission électorale nationale indépendante, estimé que la subornation des témoins pour laquelle l'ancien vice-président de la RDC a été condamné par la Cour pénale internationale est une forme de corruption. Sa requête a donc été jugée recevable mais non fondée. Définitivement écarté de la course à la magistrature suprême également, l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, suite à un conflit avec le parti lumumbiste unifié dont il était encore député national selon la Cour au moment du dépôt de sa candidature. Par contre, Sami Badibanga et Madame Marie-Josée Ifoku, recalées par la Commission électorale nationale indépendante pour détention des nationalités étrangères, ont été réhabilitées par la Cour constitutionnelle et seront bien candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre. Décembre prochain, Kinshasa. Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC toujours, deux officiers de la police accusés de n'avoir pas empêché une manifestation du mouvement Lutte pour le changement, Lucha, ont été arrêtés hier à Kananga, selon l'AFP. Il s'agit de l'officier chargé de la sécurité des bureaux de la CENI, ainsi que du numéro 2 d'une unité spécialisée de la police de la capitale de la province du Kasaï central. Les militants de Lucha ont manifesté lundi jusqu'au siège de la CENI où ils ont déposé un mémorandum exigeant l'abandon de la machine à voter et l'extirpation du fichier électoral de 16% d'électeurs dits fictifs.
A signaler aussi qu'une organisation de défense de la presse a annoncé hier la libération contre rançon d'un journaliste enlevé par des hommes armés dans la province troublée du Nord Kivu après 6 jours de captivité. Selon Journaliste en danger, Emmanuel Tusenge, directeur de la radio Umudiho FM, a été libéré vendredi dernier et il est actuellement admis pour des soins appropriés dans un centre hospitalier de Rutshuru suite à de violentes tortures qu'il a subies.
Plusieurs pays et organisations internationales ont promis aux pays du bassin du lac Tchad 2,17 milliards de dollars d'aide au développement. Ces engagements ont été pris hier à Berlin, en Allemagne, lors de la deuxième conférence des donateurs pour cette région où sévit le groupe djihadiste nigérian Boko Haram. Précision d'Irénée Herman Ongo.
Selon le ministère allemand des Affaires étrangères, organisateur de la conférence, les fonds seront mis à la disposition des pays concernés au cours des prochaines années. En plus de 2,17 milliards de dollars, plusieurs banques d'aide au développement ont promis de débloquer 467 millions de dollars de prêts à taux bonifiés. L'Allemagne a annoncé de son côté une enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros d'aide humanitaire d'ici à 2020, ainsi que 40 millions d'euros de fonds dits de prévention et de stabilisation pour le bassin. Les fonds annoncés sont nettement supérieurs à ceux qui étaient sortis de la précédente conférence sur le bassin du lac Tchad, À Oslo l'an dernier, des contributions à hauteur de 672 millions de dollars y avaient été annoncées en deçà des demandes exprimées qui s'élevaient à 1,5 milliard de dollars. En amont de la réunion de Berlin, une dizaine d'ONG actives dans le bassin du lac Tchad ont chiffré la semaine dernière à 11 millions le nombre de personnes ayant un besoin d'aide humanitaire d'urgence dans cette région.
En Mauritanie, l'Union pour la République du président Mohamed Oul Abdelaziz et le parti d'opposition islamiste Tewassoul étaient hier en tête après les élections législatives régionales et locales de samedi, selon les premiers résultats partiels disponibles. C'est ce qu'a indiqué une source proche de la commission électorale. Pour sa part, l'opposition dite radicale a dénoncé des problèmes d'organisation et des fraudes massives. Mais une mission d'observateurs de l'Union africaine, la seule présente samedi, a estimé que les problèmes constaté ne remettrait pas en cause la crédibilité de ces élections.
Au Maroc, deux Maliens, dont un adolescent, ont trouvé la mort lors d'un déplacement forcé de centaines de migrants, majoritairement subsahariens, de Tanger dans le nord vers le sud. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP un responsable de l'Association marocaine des droits de l'homme. Les autorités locales ont évoqué un accident, indiquant sans autre détail qu'une enquête avait été ouverte pour en déterminer les causes. De nombreux ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne arrivent dans le nord du Maroc en espérant pouvoir passer en Espagne.
Par ailleurs, plus de 600 migrants ont été secourus en mer Méditerranée hier. Ils tentaient d'atteindre les côtes espagnoles. Abdourahmane Dia.
Les 626 migrants venus de l'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord étaient à bord de 16 embarcations. Les gardes-côtes espagnols les ont recueillis dans le détroit de Gibraltar et dans la mer d'Alboran, les deux principaux points de passage maritime vers l'Espagne. Les arrivées en Italie ont, elles, chuté de 81%. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 28 500 migrants sont arrivés par la mer en Espagne depuis le début de l'année et 313 ont péri en tentant la traversée, soit davantage que pendant toute l'année dernière. Le nombre total des migrants gagnant l'Europe par la mer a baissé depuis son pic de 2015, mais ceux cherchant à entrer en Espagne sont de plus en plus nombreux depuis le début de l'année. L'Espagne est ainsi devenue la destination numéro un des candidats à l'asile en Europe, devançant l'Italie. Selon un rapport du HCR publié hier lundi, le taux de mortalité des candidats à l'exil a considérablement augmenté. Depuis le début de l'année, 1600 personnes au moins ont perdu la vie au cours de la traversée, le plus souvent sur des embarcations de fortune.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les États-Unis ont vivement dénoncé hier la condamnation à 7 ans de prison chacun par la Birmanie de deux journalistes de l'agence Reuters pour atteinte au secret d'État et ils ont réclamé leur libération immédiate. Ce développement a été qualifié de profondément troublant et de grand revers dans les efforts de ce pays pour promouvoir des réformes démocratiques. Les journalistes Wallon et Kyo Soo-Oo enquêtaient sur la brutale campagne militaire dans l'État Rakhine qui a forcé quelques 700 000 Rohingyas musulmans à se réfugier au Bangladesh depuis août 2017. Ils s'intéressaient particulièrement au massacre de dix Rohingyas par la police et des soldats dans le village d'Indin.
C'est aujourd'hui que commencent au Sénat américain, ici à Washington, les audiences de confirmation de la nomination du juge Brett Kavanaugh par le président Donald Trump à la Cour suprême des États-Unis. On s'attend à des questions pointues sur ses positions concernant une série de sujets tels que l'avortement, les droits des homosexuels et les pouvoirs du président. Le président Trump est optimiste, mais la minorité démocrate entend s'attaquer à cette sélection du juge Kavanaugh, craignant qu'elle n'assure pendant au moins une génération le contrôle de la Cour suprême par les conservateurs.
Le président Trump a mis en garde la Syrie, la Russie et l'Iran contre une attaque dans la province d'Idleb tenue par les rebelles en disant dans un tweet hier qu'il commettrait, je cite, une grave erreur humanitaire en prenant part à cette potentielle tragédie humaine. Des centaines de milliers de personnes pourraient être tuées. Ne laissons pas cela se produire, a encore dit M. Trump. Plus tôt dans la journée, l'Iran avait exprimé son soutien à une imminente offensive syrienne pour reprendre le dernier grand bastion de la rébellion en Syrie, disant, je cite, que la région devrait être débarrassée des terroristes. Le chef de la diplomatie iranienne Javad Zarif a rencontré hier à Damas son homologue syrien ainsi que le président Bachar al-Assad.
Les talibans afghans ont annoncé la mort au terme d'une longue maladie de Jalaluddin Haqqani, le chef d'un puissant réseau insurgé très actif en Afghanistan, a rapporté mardi le centre américain de surveillance des sites djihadistes SITE. Haqqani avait fondé dans les années 80 le réseau du même nom, constitué pour lutter contre la présence de l'ex-URSS en Afghanistan et qui avait reçu l'aide des États-Unis et du Pakistan. Ministre du régime des talibans dans les années 90, Jalaluddin Haqqani s'était tourné à partir de 2001 contre les forces américaines et de l'OTAN qui venaient de faire tomber le régime intégriste. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
La BAD a quintuplé en 5 ans ses appuis financiers en faveur de la Côte d'Ivoire. Ce portefeuille de plus de 802 milliards de francs CFA a permis de soutenir le plan national de développement. Près de 56% des fonds sont destinés aux infrastructures routières. Abidjan a enregistré une performance économique remarquable avec en moyenne un taux de croissance de 9% et une hausse du produit intérieur brut par habitant supérieure à 7% sur la période 2012-2017. Le taux d'investissement public a atteint près de 7% et celui d'investissement privé plus de 14%. La France a annoncé une hausse d'un milliard d'euros de son aide au développement en 2019. Paris va concentrer ses nouveaux moyens sur les pays pauvres et fragiles, essentiellement en Afrique. La moitié de ce fonds sera allouée à l'éducation, à la jeunesse, à l'égalité femmes-hommes, à la santé et à la nutrition. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a cité 18 pays africains et Haïti comme pays ciblés et a précisé notamment que c'est l'ensemble Sahel qui est essentiel. Le Niger a reçu de l'Union européenne une aide de plus de 14 milliards de francs CFA. C'est pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe. Cette aide porte le montant total des soutiens budgétaires à 51 millions d'euros au premier semestre 2018. Selon les statistiques européennes, environ 90% des migrants d'Afrique de l'Ouest traversent le Niger sur leur parcours vers la Libye et l'Europe.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Oroya est tombé sur du lourd pour les quarts de finale en Ligue des Champions.
Le tirage au sort a eu lieu hier au Caire. Le Oroya Athletic Club de Conakry devra battre du face à Al Ahly d'Égypte, 8 fois vainqueur de la compétition. Autre confrontation, le 1er Agosto, tout puissant Mazembe. Le Wydad Athletic Club, champion d'Afrique en titre, défiera l'entente sétive d'Algérie. On aura aussi un derby tunisien entre l'Espérance et l'Étoile du Sahel.
En Coupe de la Confédération, Vita Club fera face à Berkane.
C'est le choc qui retient toutes les attentions. Autre rencontre qui vaudra le détour, la réception de l'USM Alger par Al Masry d'Égypte pour sa première qualification en cadre d'une compétition africaine interclub. Le surprenant Rayon Sport fera face à Enyimba du Nigeria. Tirage a priori clément pour le Raja Athletic Club du Maroc qui va jouer Kara de Brazzaville. Les matchs de ces quarts de finale sont prévus en aller le 16 septembre et en retour le 23 septembre.
Éliminatoire CAN des moins de 17 ans, le Burkina Faso a pris la tête du groupe B.
Les étalons cadets ont dominé hier le Nigeria 3-2 dans un match spectaculaire et plein de suspense. Abdoul Koumi a ouvert le score pour les Burkinabés dès la deuxième minute. Il a été rapidement imité par Jean-Fabrice Kouame. Cueillis à froid, les Golden Eagles ont réduit la marque par Olusegun Olakunle avant d'égaliser sur pénalty juste avant la pause. C'est finalement la 86e minute que Moubarak Compaoré, élu homme du match plus tard, a inscrit le but victorieux pour le Burkina. La Côte d'Ivoire complète ce groupe une fois B et fera son entrée en lice jeudi prochain face au même Nigeria.
Mohamed Salah, finaliste pour le titre de meilleur joueur FIFA de l'année.
Sans surprise, l'ailier égyptien de Liverpool se disputera la couronne avec Cristiano Ronaldo qui a quitté le Real Madrid pour la Juve et le merengue Luka Modric élu vendredi dernier meilleur joueur UEFA de l'année. Dans la catégorie du meilleur entraîneur, ça va se jouer entre l'entraîneur de la Croatie, Zlatko Dalic, finaliste malheureux du mondial russe, Didier Deschamps, champion du monde 2018 avec la France, et Zinedine Zidane, vainqueur du trophée en 2017 et trois fois vainqueur de suite de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Les lauréats seront désignés le 24 septembre à Londres.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Septième forum à Pékin sur la coopération Chine-Afrique. Le président Xi Jinping a promis hier 60 milliards de dollars au continent africain. L'engagement de M. Xi est intervenu au cours ou au début de ce sommet, auquel participent pendant deux jours les dirigeants de 53 pays africains. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Dakar l'économiste auprès de l'Open Society West Africa, Ibrahima Aïdara.
Ça devient comme une tradition entre la Chine et les pays africains de se rencontrer périodiquement pour discuter de leurs accords de coopération. Si c'est bien géré, il se pourrait qu'il y ait des retombées positives. Déjà, des pays ont signé des contrats bien avant la réunion. Donc, en termes de contrat et de partenariat, ça peut être une opportunité. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'il faut utiliser cette opportunité-là pour effectivement transformer son économie, transformer son développement pour le bénéfice de ses populations.
Entre 2000 et 2016, la Chine a prêté à l'Afrique 125 milliards de dollars, mais on ne voit pas d'impact.
Ça, c'est une question très importante. Étant entendu que, bien avant la Chine, l'Afrique a importé beaucoup de ressources étrangères pour financer son développement. Malheureusement, cet endettement massif n'a pas effectivement permis de générer une croissance économique durable, de façon plus importante, une réduction significative de la pauvreté et des inégalités. Et donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Aujourd'hui, si les pays africains, dans la perspective de diversifier leur partenariat, ou en tout cas de trouver en la Chine un nouveau partenaire qui pourra injecter de nouvelles ressources, sans pour autant prendre les dispositions pour bien identifier les projets prioritaires qui puissent générer la croissance et réduire la pauvreté, je pense qu'on va vers, disons, les mêmes conséquences, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la croissance, on ne va pas avoir, déjà, les rapports indiquent qu'il y a la croissance qui arrive, mais on ne va pas avoir une réduction significative de la pauvreté et des inégalités. Et on va rentrer dans une nouvelle strate de la dette.
Est-ce que les investissements chinois peuvent être un cadeau empoisonné?
Je pense que les dirigeants actuels africains trouvent un certain confort dans les investissements et les prêts chinois comparés à d'autres types de prêts qui sont assujettis à des conditionnalités, surtout en matière de gouvernance et des droits humains. Et effectivement, si au niveau africain, il n'y a pas un mécanisme de gouvernance vertueux, il n'y a pas une demande de redevabilité et de transparence, ça peut conduire, comme je l'ai dit, aux mêmes effets, c'est-à-dire un endettement massif appauvrissant et qui crée des inégalités. Pour reprendre votre terme, ça peut être un cadeau empoisonné.
Il y a aussi le FMI qui a émis des craintes sur l'accumulation de l'endettement.
Oui, je pense que c'est tout à fait justifié, puisque par rapport à notre capacité, on est en train de dépasser les limites. Beaucoup d'économies aujourd'hui, malgré l'effacement de la dette qu'on a eu dans les années 2000, sont en train de s'endetter non seulement de façon rapide, mais sur des marchés financiers dont les conditionnalités sont beaucoup plus encore difficiles à remplir pour les économies africaines. Et donc, je pense que le FMI a bien raison à ce niveau-là de tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, vous êtes en train d'arriver à un niveau insoutenable d'endettement par rapport à la capacité de vos économies.
C'était Ibrahima Aïdara, économiste auprès de l'Open Society West Africa.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, la commune du 9e arrondissement de N'Djamena est inondée depuis un mois. C'est généralement en période de crue que la population subit cette montée des eaux des fleuves Chari et Logon. C'est pourquoi les habitants se disent surpris d'être dans cette situation alors que ces fleuves ne connaissent pas encore cette période. Le correspondant de VOA Afrique, André Kotma Djingar, s'est rendu sur place.
Nous sommes au quartier Ngangali, section 1 et 2, situé à une dizaine de kilomètres dans la commune du 9e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. Ce quartier est envahi par l'eau il y a environ un mois. Plusieurs maisons sont écroulées faisant des sans-abri et des blessés. Ceux qui ne savent où aller sont obligés de passer leur nuit dans ces habitations fortement humides avec tous les risques de santé que cela comporte. Interrogé par VOA Afrique, quelques habitants ignorent l'origine de cette inondation.
La source de l'eau, la même, on ne connaît pas. Notre carré est ce qu'on bafond d'eau. Donc l'eau vient de tous côtés. On a rempli les sacs avec du sable pour mettre ça à l'intérieur, mettre le matelas là. Parce que en bas, tout est mouillé.
On souffre beaucoup avec mes enfants. Avant, faire le marché, d'abord, on va venir manger. Mais maintenant, l'eau nous a bloqué comme ça. Les maladies, là-même, ça nous menace beaucoup. Notre enfants, là, c'est tout terre, c'est palier. On souffre les diarrhées, tout ça comme ça.
Franchement dit, nous sommes devenus des crapauds. J'ai un voisin du nom Samson. Sa maison était cassée deux fois. Et si ce n'était pas par la grâce de Dieu, il aurait parti avec tous ses enfants. Il avait eu des blessures sur sa tête.
Pour le géologue docteur Djemadoum Nambatindar, c'est le changement climatique et la culture du riz sur le passage des eaux qui seraient à l'origine de cette inondation.
Il y a un an, deux ans, des gens ont remarqué que le terrain est très riche en culture de riz. Donc maintenant, cette année, tout le monde presque s'est mis derrière là à improviser les rizicoles. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font parce que ça provoque en amont une sorte de bassin de rétention. Même cet été-là, en Europe, c'est une chaleur insupportable. Ça a été prévu il y a 10 ans déjà qu'on va rentrer dans ces cycles de ces changements climatiques. C'est là. Donc N'Djamena doit faire attention.
Le maire de la commune du 9e arrondissement municipal de N'Djamena, Mahamad Kerima Saleh, se dit lui aussi surpris de voir sa population dans cette situation désastreuse.
Les gens ont reçu des terrains d'une manière traditionnelle et ils ont commencé à construire sans un plan d'aménagement. Nous sommes dans une commune semi-rurale, donc on ne peut pas faire tout à la fois. Mais c'est un problème qui est arrivé subitement. C'est à partir de ces moments qu'on va mettre une équipe sur place pour faire le recensement, combien de personnes qui se trouvent dans l'eau. Nous allons chercher un espace, on va le mettre en attendant qu'il y ait une solution définitive.
Paradoxal que cela paraître, c'est depuis un mois que cette population vit dans le désarroi sous le nez des autorités qui veulent faire de N'Djamena la vitrine de l'Afrique centrale. Mais aucune institution étatique, notamment le ministère en charge de l'action sociale, moins encore les ONG œuvrant dans le domaine humanitaire, ne se sont manifestées. André Kondumadingar, N'Djamena, pour VO Afrique.
N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
La mer Méditerranée a été plus mortelle que jamais pour les migrants au cours des premiers mois de 2018. Plus de 1600 personnes y ont trouvé la mort depuis le début de l'année, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés publié hier. Pour un éclairage, Ekiabadou a joint à Paris Céline Smith du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
1600 personnes ont perdu la vie en tentant de rejoindre l'Europe en mer Méditerranée et notamment en mer Méditerranée centrale. C'est les données que nous avons, mais il pourrait y avoir d'autres personnes mortes qui n'auraient pas été rapportées.
On voit aussi dans ce rapport que les routes ont changé. Est-ce que le fait que les routes ont changé, cela signifie qu'elles sont peut-être plus dangereuses au vu de ce chiffre qui augmente ?
Il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées, notamment en Espagne, mais également en Grèce. Les nationalités qui arrivent par ces différentes routes ne sont pas les mêmes. On ne peut pas pour l'instant faire un lien entre la baisse des arrivées en Méditerranée centrale, donc vers l'Italie, avec l'augmentation des arrivées en Espagne. Certaines nationalités sont les mêmes, mais elles l'étaient déjà l'année dernière. Donc on n'a pas d'éléments pour l'instant pour dire qu'il y a un lien entre l'augmentation de la route en Espagne et la diminution d'une autre route.
Ce rapport est intitulé « Voyage désespéré ». Pourquoi ce choix de titre ?
Parce que les personnes qui entament ce voyage n'ont pas d'autre choix. Fuient la persécution, fuient la guerre, parfois la pauvreté. C'est un voyage désespéré parce qu'ils savent aussi que la route est meurtrière. Elle l'est maintenant plus que jamais. Et donc cela appelle à d'autres solutions. Et nous voulons attirer l'attention justement sur cette situation dramatique pour également appeler les États européens à proposer davantage de voies légales comme des visas humanitaires ou des bourses d'études aussi pour des personnes en besoin de protection. production. Le nombre de places qui ont été offertes cette année par les États européens est de 13 000, mais les besoins sont bien plus importants, à la fois de réfugiés qui se trouvent dans des pays qui mènent à la Libye, donc qui sont sur la route de la Méditerranée centrale, mais aussi pour les réfugiés que nous évacuons de Libye, puisque depuis la fin de l'année dernière, nous avons un programme d'évacuation humanitaire de réfugiés de Libye vers un centre de transit humanitaire au Niger, afin que les personnes soient ensuite réinstallées vers d'autres pays, dont les pays européens. Et pour que ce programme d'évacuation humanitaire continue, il nous faut plus de place, puisque la seule solution actuellement pour libérer les personnes qui sont en détention en Libye est de les évacuer.
Céline Smith, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Burkina Faso, une espèce de chenille comestible est revalorisée par les populations de l'ouest du pays durant la saison des pluies. La chenille de karité, ou chitoumou de son nom local, fait la fierté de la région des Hauts Bassins. En fait, tout un festival lui est annuellement dédié. Reportage à Bobo Dioulasso de notre correspondant Issa Napon.
Prédateur d'un arbre fruitier appelé karité en Afrique de l'Ouest, la chenille ou chitoumou, dans le dialecte local, fait l'objet d'une véritable fierté au sein des populations de la région des Hauts Bassins. Pour revaloriser cette espèce de chenille comestible, une association s'active depuis une dizaine d'années dans cette région. Il s'agit d'une réelle nécessité de les mettre en avant, commente l'organisateur Lassina Sanou, président de l'association pour l'épanouissement de la commune de Bobo Dioulasso.
C'est le socle de la culture de la région des Hauts Bassins, c'est l'identité de la région des Hauts Bassins. Quand vous parlez de chitoumou, des chenilles de karité au Burkina Faso, immédiatement les gens font référence à Bobo Dioulasso. C'est notre identité culturelle. Donc ce qui veut dire que c'est un aliment qui est très important, qui représente toute la région de Haut Bassin, d'où l'importance que nous lui accordons en organisant cette fête.
Le chitoumou, chenille de karité, est l'aliment le plus prisé dans cette région. Quand arrivent les premières pluies de la saison, la collecte peut ainsi s'engager, estime une des transformatrices présentes au festival. Pour Mamine, la quarantaine est bien entamée, le chitoumou est un concentré de vertus. Les vertus du chitoumou sont nombreuses. On les consomme par exemple pour soigner les maladies liées à la tension artérielle, les ulcères, sous forme séchée ou pas, ou encore en poudre. Ils représentent aussi un complément alimentaire pour les enfants et nous les vendons dans des récipients entre 1250 et 1500 francs CFA, selon la quantité. Autant de vertus qui font rappeler la nécessité de consolider ce type d'action culturelle, bénéfique à tout point de vue, affirme le professeur Babou Niang, président de l'association des détenteurs des savoirs occultes africains.
Même les gens, ceux qui l'ont initié, ne savent pas exactement le bonheur qu'ils sont en train d'apporter à l'Afrique. Le chitoumou, sur le plan scientifique, aujourd'hui est reconnu sur le plan mondial que ça peut traiter beaucoup de maladies.
Un danger cependant guette ce véritable symbole alimentaire de la ville de Bobo Dioulasso. Les chenilles se font de plus en plus rares au fil des ans, constate avec anxiété Lassina Sanou.
L'enjeu est plus qu'important pour la région des Hauts Bassins. Il va falloir que les gens prennent conscience du danger qui menace sérieusement les chenilles de karité. D'abord, sensibiliser la population à ne pas couper l'arbre de karité. Les chitoumou, c'est des chenilles qui ne sortent pas si des karités qui sont plantées par l'être humain. L'autre aspect, il va falloir sensibiliser les populations, surtout les paysans, à ne pas utiliser certains insecticides, certains pesticides qui nuisent carrément à la reproduction de la chenille de karité.
Plus de 100 tonnes de chitoumou sont collectées sur le karité par an, avec pour ambition, selon les festivaliers, d'en apporter une valeur ajoutée à terme en créant des unités industrielles de transformation spécifiquement dédiée au chitoumou. Issa Napon, Bobo Dioulasso, VOA Afrique.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05 temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05 temps universel sur VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.